Bienvenue à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Et moi je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. » Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Je voulais partager avec vous ce matin un troisième extrait tiré de la lettre aux Éphésiens. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Un culte de reconnaissance, donc, qui montre aux enfants et aux parents l'une des particularités du protestantisme, le besoin de dire merci, d'être reconnaissant, parce que conscient d'être au bénéfice d'eux. Découvrir ou redécouvrir que nous ne nous sommes pas faits seuls, contrairement à ce que l'on aime parfois faire croire, mais que nous sommes la somme des rencontres, des lectures, des discussions, de regards, de sourires qui nous ont construits. Merci. La somme de blessures aussi, de remarques, de moqueries, de coups. Merci pour les remarques qui me remettent à ma place quand je me prends trop au sérieux, pour les moqueries qui m'aident à savoir rire de moi-même quand je l'oublie, pour les coups plus difficiles, pour les coups qui m'ont appris qu'il fallait que je m'endurcisse pour avancer. Un culte de reconnaissance qui nous redise, parce que nous en avons besoin, moi le premier, que tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous réussissons et tout ce que nous ratons allègrement ne nous appartient pas, mais est à remettre dans des mains plus grandes que les nôtres. Une manière de dire avec des mots simples la grâce. Cette grâce dont le protestant veut vivre, à la fois libre et redevable. Librement redevable de tout. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa grâce dure à toujours. Peut-on lire dans le livre des Chroniques. Mais la prédication protestante de la grâce, comme n'importe quel discours, n'a de sens que dans la mesure où il répond à une question de l'auditoire. Et cette question fut un temps celle de l'angoisse, de la culpabilité, de la damnation. Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Michée, chapitre 7. On se demande alors quel sens peut avoir cette prédication de la grâce aujourd'hui si la question à laquelle elle répond n'est plus. Certes, il nous est possible de répéter dans la liturgie, de perpétuer cette question de la culpabilité. Nous avons déjà la réponse, la grâce. De même, certains matamores font peur aux gens pour leur proposer la sécurité, ou certains charlatans provoquent des maladies dont ils ont le remède. Peut-être cédons-nous parfois à cette facilité. Car en effet, qui aujourd'hui se pose réellement avec sérieux la question de sa culpabilité? Est-ce vraiment l'axe par lequel vous avez ressenti le besoin de venir à ce culte, de rentrer dans cette église? Vous vous êtes-vous levé? Avez-vous pris votre petit déjeuner en vous sentant tellement coupable que tout votre être se languissait de la grâce de Dieu que vous ne pourriez trouver qu'en l'église réformée du Bouclier? C'est possible, ne riez pas. Mais en répondant à la question de la culpabilité, la prédication de la grâce a soulevé une nouvelle question, celle de l'absurde. Car sans but, sans peur, la vie n'est plus alors qu'une aventure gratuite et presque superflue. Enfin, elle se suffit à elle-même. Enfin, cette vie est justifiée. Mais après la libération introduite par la prédication de la grâce, qui libère du devoir de se libérer soi-même, comment font ceux de la génération d'après? Comment font ceux que cette prédication ne libère plus de rien puisqu'ils n'ont plus cette angoisse, qui sont déjà des héritiers de la grâce? Deux possibilités s'offrent à eux. Soit ils connaîtront l'angoisse d'une culpabilité d'autant plus grande qu'elle les renvoie à leur incapacité à la confiance. Et la foi sera ici rongée par le doute de savoir si on a la foi. On sera alors tenté d'agir comme si, de multiplier les œuvres, non plus comme des moyens, mais comme des preuves, des signes de l'élection. On s'agitera, on fera de l'évangélisation, on collectera des denrées alimentaires, des prédications, des études bibliques, pour montrer la grâce. Le poids de ce souci de savoir si on a la foi, qui est peut-être la foi même, a probablement éliminé ces protestants-là en les renvoyant vers des religions plus rassurantes. Et puis, il y a une alternative. La deuxième possibilité sera de tomber, au contraire, dans le trou noir de la grâce, celui du désœuvrement total, de ce qu'Olivier Abel appelle une paresse du lys des champs. Vous savez, ce lys des champs de l'évangile de Matthieu qui n'a rien à prouver, car il est mieux habillé que le roi Salomon. Il a déjà tout reçu. Il est déjà sauvé. Les autres ont beau nous exhorter à donner des fruits, pour utiliser ce champ lexical bien biblique, rien ne pourra plus entamer notre tranquillité, ce sentiment d'une grâce universelle qui brille pour tous et dans laquelle nous pouvons nous effacer, car nous n'en demandons plus rien. La légèreté de cette insouciance, de savoir si on a la grâce, qui est peut-être la grâce elle-même, a probablement d'ailleurs éliminé ces protestants-là en les renvoyant vers le monde de tout le monde. Un monde où il n'est religieusement aucun besoin de religion. Et en ce sens, il est possible que ce soit eux qui aient inventé la possibilité de ce monde religieusement irreligieux. Ce qui fait dire à certains qu'en ce sens, les protestants ont déjà gagné. On est dans la post-grâce du lys des champs. Ainsi donc, la prédication de la grâce comme réponse à la culpabilité initiale aurait des effets secondaires désastreux sur les protestants en les renvoyant d'une foi sincère, soit vers une religiosité plus tangible, plus ritualisée que la nôtre, soit carrément en les libérant de ce besoin pour les transformer en un peuple affranchi de tout besoin religieux. C'est à ce moment-là, vers 21h45, que mon petit frère m'a envoyé un message sur Facebook pour me dire qu'il y avait des coups de feu vers l'avenue de la République où il marchait avec sa copine. C'est à ce moment-là que j'ai cherché à savoir ce qui était en train de se passer et que nous avons compris en même temps que ce n'était pas un règlement de compte, comme il l'avait cru au début, et qu'il fallait courir vers le sens opposé, c'est-à-dire en fait pour lui vers le boulevard Voltaire et la salle du Bataclan, pour finalement se rendre compte que ce n'était pas une si bonne idée. Il a fallu sonner et rentrer en catastrophe dans l'immeuble d'un ami pour attendre jusqu'au petit matin, en prenant des nouvelles de ceux dont nous savions qu'ils étaient dans la salle de concert. Qu'est-ce que la grâce ? Le fait de se sentir pardonné ? Le fait d'avoir la vie sauve ? Est-ce que ceux qui n'ont pas eu cette chance n'étaient pas au bénéfice de la grâce de Dieu ? Ça, je ne peux pas le croire. Je ne veux pas le croire. Rendre grâce, d'accord. Mais identifier la grâce avec une forme de sécurité matérielle ou avec la survie au moment d'un drame serait une équation indécente. Je crois que la grâce est d'abord une attitude. Elle renvoie à une manière tranquille de reporter vers les autres ce que j'ai le sentiment d'avoir reçu moi-même. Une attitude qui nous imprègne à tel point qu'elle transparaît dans la joie comme dans la détresse. J'ai demandé à mon frère ce qu'était pour lui la grâce, sans lui faire part de mes réflexions. Et il m'a répondu: aimer son prochain, même dans l'expérience de la mort. Il faut replacer ces paroles dans la bouche de quelqu'un qui maintenant sait de quoi il parle, pour jamais n'en faire un enseignement ex cathedra, pour jamais n'en faire un principe posé a priori, que l'on pourrait enseigner, et duquel découlerait ensuite la bonne attitude. Et alors les mots de Jésus prennent tout leur sens. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi », mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Nous avons tellement reçu, nous recevons encore tellement que nous sommes en mesure de donner à l'aune de ce qui nous a été donné. Et ceci est valable pour les denrées alimentaires, des choses très concrètes, mais aussi pour le sens de l'écoute, le regard bienveillant, la parole réconfortante. Et désormais, alors que l'on veut nous déclarer la guerre, pour tous ceux qui ont si peu reçu que l'unique manière d'être aux autres consiste à violenter, à forcer, à terroriser, d'être des témoins vivants de ce sentiment qui nous habite. Alors, peut-on dire qu'il existe entre d'un côté l'angoisse de savoir si j'ai vraiment la foi et de l'autre le désœuvrement total de celui qui a oublié jusqu'au sens de cette question, qui sont pourtant historiquement deux postures que l'on pourrait qualifier de protestante. Deux réactions, deux attitudes face à la prédication de la grâce. Une troisième voie. La voie que je voulais vous proposer ce matin. La voie de celui qui regarde à la fois en arrière, autour de lui, et qui peut contempler ce dont il est au bénéfice. Et qui peut aussi mesurer dans quelle mesure nombreux sont ceux qui n'y arrivent pas, qui ne peuvent tout simplement pas, et qui attendent peut-être qu'on le leur explique, qu'on le leur montre, par un signe, par un geste, ou par une parole. Contempler, mesurer, et puis regarder devant, et se dire que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Personne. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Bonne route, bonne suite, bénédiction, avec tout ce que vous avez reçu en parole, en silence, qui parle de Dieu, du monde et de vous.